BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
En direct avec nous dans l'heure H, Marie-Laure Leclerc de Souza, directrice Leasing Market Advisory chez JLL France. Bonjour, merci d'être avec nous en direct dans l'heure H. Des bureaux désertés par les salariés. Le constat, il a été fait il y a déjà des semaines. Le télétravail est devenu un recours, pas le seul, mais la crise a bel et bien bousculé le marché des bureaux. Cela a totalement rompu une dynamique qui était d'ores et déjà engagée.
Effectivement, nous avons un marché qui a été particulièrement perturbé par le confinement et le Covid a décalé un certain nombre de projets, a bousculé, a accéléré un grand nombre de grandes tendances que nous connaissions depuis quelques mois aujourd'hui. Et j'aurais tendance à imaginer que tous les bureaux ne sont pas désertés. Au contraire, ils y ont pris tout leur sens. Mais le télétravail a redessiné l'ensemble des besoins que les entreprises ont pour leurs bureaux et pour justement assurer que les collaborateurs reviennent dans ces bureaux avec une réelle intention de le faire, pour y trouver quelque chose et une expérience.
Alors, pour revenir en détail sur chronologiquement sur cette crise et l'effet du confinement, le marché s'est effondré, plombé par le confinement. En Île-de-France, le choc a été d'une rare ampleur.
Alors oui, le choc a été très important puisque la demande placée a chuté de 40% lors du premier semestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'au lieu de que 1 100 000 mètres carrés de bureaux soient loués par des entreprises au cours du premier semestre, comme sur la dernière moyenne décennale, l'ensemble des entreprises ont pris à bail 675 000 mètres carrés de bureaux en Île-de-France, puisqu'effectivement, à partir du 16 mars, l'ensemble des baux ne se sont pas forcément signés, les décisions se sont décalées et une vraie réflexion a été mise en œuvre dans les entreprises sur leur empreinte immobilière et la façon dont ils souhaitaient travailler dans les immeubles de bureaux. Alors, mais malgré tout, pardon.
Non, je vous en prie, terminez.
Malgré tout, nous pensons que l'année 2020 sera une année pendant laquelle le second semestre va reprendre l'ensemble des projets qui existaient avant le confinement. Nous tablons sur une demande placée d'1 500 000 mètres carrés versus 2 millions, 2 millions 2 par an sur la dernière moyenne décennale de la même façon.
Et donc il y aura une possibilité de repartir, pas de rattrapage complet, mais finalement une dynamique qui pourrait reprendre de manière technique, de manière logique.
Exactement. De manière technique, l'ensemble du marché s'est déjà remis en œuvre. De nombreuses visites ont lieu, les entreprises prennent des décisions. Donc effectivement, nous ne rattraperons pas ce que nous avons perdu pendant 2 mois et demi de confinement, mais nous allons rattraper un certain niveau malgré tout de dynamisme et nous tablons sur une année 2021 quasiment à l'identique des années précédentes.
Sur les mois écoulés, est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Est-ce que ça a eu un effet sur les prix et sur les loyers également? Ou alors là, comme ça a été mis entre parenthèses, ça n'agit pas véritablement, mais avec la reprise, est-ce qu'on peut imaginer que ça ait que ça puisse servir d'éléments plombants qui pourraient tirer vers le bas les loyers ou au contraire dynamiser un peu plus?
Alors, quand on revient un petit peu sur les mois passés, nous avons eu un stock en immobilier d'entreprise sur la région Île-de-France très faible. Le marché avait été très dynamique sur les 3 dernières années. Et donc, dans Paris intramuros, notre taux de vacance, donc la différence entre le nombre de mètres carrés disponibles et le stock, n'était que de 2%. Donc, l'ensemble du stock était très tendu, des difficultés d'ailleurs à trouver des bureaux, ce qui n'était pas forcément le cas en première couronne et avec des fortunes diverses en fonction des différentes communes et des différents lieux. Donc les prix n'ont pas immédiatement connu de mutation et de mouvement pour la simple et bonne raison aussi que les baux commerciaux sont des baux longs, ce sont des baux de 9 ans, résiliables parfois tous les 3 ans, mais des baux malgré tout longs. Donc tout ne s'est pas arrêté, les baux continuent avec des négociations qui ont eu lieu avec les bailleurs pour justement trouver un équilibre entre situation économique compliquée et aussi besoin pour les investisseurs de continuer à toucher leur loyer. Donc les transactions n'ont pas fait chuter les valeurs puisque le stock se reconstitue relativement doucement dans Paris et un petit peu plus en première couronne. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs institutionnels sont prêts à accompagner les entreprises dans des prises de risque, dans des déménagements et dans des volontés de mouvement. Donc, les prix ne vont pas chuter de façon évidente. Nous aurons des recalages sur certaines valeurs, des ralentissements de hausse dans Paris, mais aujourd'hui il n'y aura pas de chute drastique des valeurs, sauf sur des secteurs potentiels avec des surdensités de bureaux.
Ce qui veut dire que ça va pas remettre en cause les investissements imaginés peut-être avant et confirmés ensuite pour le second semestre.
Tout à fait. Nous avons un marché de l'investissement qui, contrairement au marché locatif qui a directement connu des effets liés à la crise, le marché de l'investissement aujourd'hui est dynamique. Nous avons un vrai attrait de l'ensemble des investisseurs internationaux pour le marché parisien, le marché francilien et le marché français. Il faut se dire aussi que le marché français est un marché pérenne et stable depuis des années. Nous sommes dans un contexte économique européen aussi qui est marqué par le Brexit. Donc l'ensemble des investissements en France perdure et demeure et devrait rester stable sur cette année 2020.
On le dit souvent, la crise comme accélérateur de transformation déjà engagée, on l'a vu surtout, c'est particulièrement vrai hein, sur le marché des bureaux, le cas hein, pour ce marché, un lieu où les services ont pris et doivent prendre davantage de place. Il y a eu la transformation certes du coworking, là on parle du télétravail, mais de toute façon c'était un secteur qui était déjà en pleine transformation. On ne parle plus spécialement de flex office, il faut apporter un lieu de vie, un lieu de service pour les salariés.
Vous avez tout à fait raison. L'accélération de ce que nous avons connu ces dernières années a été très importante lors du confinement et du post-confinement. Nous avons une idée qui est de se dire que le Covid a décalé les projets, le télétravail a redimensionné l'ensemble des projets et le flex office les a redessinés. Donc nous avons ces tendances qui se sont accélérées avec l'envie que le bureau devienne vraiment un lieu d'expérience, d'attraction des talents, de rétention des talents, d'échange, de travail collaboratif, de travail créatif. Le bureau n'est pas uniquement un endroit pour lequel on doit aller par punition, mais bien au contraire, créer des volontés de mutation des façons dont les entreprises travaillent de façon individuelle, travaillent en mode projet. Et donc, ces accélérations sont en cours, avec bien entendu la prise en compte des mesures sanitaires qui ont quand même aussi bouleversé ces réflexions et qui aujourd'hui nécessitent donc de repenser complètement son emprise immobilière. Aujourd'hui, les entreprises que nous avons rencontrées nous parlent plutôt de mieux consommer des mètres carrés que de moins consommer des mètres carrés. Effectivement, le bureau doit trouver sa place et d'ouvrir sa place pour que les collaborateurs y soient bien et les clients des entreprises y soient bien aussi.
Ça veut dire qu'on ne va pas spécialement rationaliser les besoins de mètres carrés, on va mieux les utiliser. Et deuxième partie de ma question, ça veut dire aussi que les bureaux sont devenus pour les entreprises un levier d'attractivité pour attirer justement les talents dans l'entreprise ?
Tout à fait. Aujourd'hui, les jeunes diplômés ne vont pas uniquement regarder les salaires qui seront proposés ou les possibilités de carrière, mais dans quel espace travaille-t-on ? Est-ce que le télétravail aussi, qui est en cours de mise en place de façon plus importante, est utilisé par l'entreprise ? Est-ce que la mobilité est utilisée par l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on fait au bureau ? Qu'est-ce qu'on attend de moi au bureau ? C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui chez les nouveaux diplômés et aussi sur certains domaines d'activité dans lesquels le marché de l'emploi est très tendu. Donc le bureau devient vraiment un espace de vitrine pour l'entreprise de son savoir-faire, de son savoir-être. De la même façon, il donne aussi envie à des collaborateurs de venir, d'y passer du temps pour justement échanger, créer avec les autres membres de l'entreprise des synergies qui n'étaient pas forcément évidentes quand on n'est pas sur un espace physique. Et donc le bureau est en train complètement de changer, de muter pour laisser la place au travail individuel, au travail collectif, au travail créatif, au travail collaboratif, pour amener une valeur ajoutée différente à l'ensemble des réunions qui pouvaient jusqu'à présent être considérées comme de la perte de temps et pas uniquement de l'efficacité. Donc on va beaucoup plus sur de l'efficacité et la raison pour laquelle on est au bureau. Pourquoi se réunit-on ? Pourquoi a-t-on envie de venir tous ensemble travailler ?
De l'efficacité, ça passe aussi par la distance domicile-travail. Est-ce qu'on peut imaginer que les bureaux se rapprochent finalement des lieux de vie ? On est un système un peu différent. On quitte les centres très urbains pour aller dans des villes plutôt moyennes, en fait, qu'on redistribue l'espace.
Alors ça, c'est une vraie question qui va dépendre du secteur d'activité de l'entreprise, du poste du collaborateur, qui peut avoir des attentes complètement différentes de la part de ses clients, de la part des membres de son équipe ou de sa direction. Donc, on ne peut pas complètement faire des généralités. Les vraies questions qui vont se poser dans les prochains mois sont report ou centralité du marché du travail, même au sein de la région parisienne. Est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir son siège social dans Paris, ses équipes en première couronne? De la même façon, peut-on imaginer avoir une partie de ses équipes en région et qui travaillent aussi à Paris de temps en temps? Donc, toutes ces réflexions sont en cours au sein des entreprises et vont vraiment dépendre de leur secteur d'activité, de leur besoin d'être sur des endroits proches, de la proximité avec leurs clients et de la proximité avec leurs propres collaborateurs. Donc, tout est dans le détail et aujourd'hui, nous assistons à d'ailleurs des réflexions complètement différentes de grands groupes qui, jusqu'à présent, obligeaient leurs collaborateurs à être à un endroit fixe parce que justement leur entreprise s'y trouvait, leur siège social s'y trouvait, et des réflexions ont lieu sur la mobilité, sur les tiers-lieux, sur les usages différents des espaces qui aujourd'hui mènent des opportunités incroyables justement pour peut-être un meilleur équilibre du territoire.
Une dernière question sur cette fameuse rentrée attendue comme un choc, ou l'automne même, le choc de l'automne qu'on attend comme catastrophique. C'est quand même un secteur, l'immobilier de bureau, malgré tout, certes, qui résiste, mais qui est très exposé à la conjoncture, et donc la reprise du secteur est liée à la reprise économique. Est-ce que vous envisagez tout de même une perspective optimiste? Vous le disiez, avec encore des investissements, mais on peut imaginer pour le secteur quand même ce choc de la rentrée ou ce choc de l'automne.
Alors, le choc, on l'a déjà subi. Le choc, on l'a subi le 16 mars quand on était là.
Avec le confinement.
On a arrêté totalement notre activité. Donc, on a déjà le sentiment d'avoir connu un premier choc. Il a fallu digérer ce choc.
Et de l'avoir absorbé.
Et de l'avoir absorbé, exactement. Donc ça a été le premier effet. Nous avons donc retravaillé avec toutes nos entreprises, avec tous nos clients, en créant beaucoup de liens pour comprendre la façon dont on pouvait les accompagner sur ce premier choc. Donc on a mis en place des offres liées à la réentrée dans les bureaux, à l'imagination des nouveaux bureaux. Donc ce premier choc a déjà eu lieu. Pour nous, il est déjà en cours. Nous avons des liens très proches avec nos clients. Nous avons essayé d'anticiper avec eux les impacts sur l'immobilier, des propres impacts que leurs clients et que leurs objectifs connaissaient donc avant l'été. Donc je pense que nous avons déjà assez fortement anticipé ce prochain choc que nous attendons au mois de septembre, sachant que les prémices sont déjà en cours, et en même temps nous avons des indices et des feux verts assez importants sur le marché qui nous permettent d'imaginer que le marché va être dur, qu'il va falloir encore inventer des nouvelles choses pour pouvoir accompagner nos clients pour passer cette crise. Mais nous ne pensons pas que le choc va être encore plus fort à la rentrée.
Merci Marie-Laure Leclerc d'Essouza d'avoir été avec nous dans l'ORH. Je rappelle que vous êtes directrice leasing market advisory de JLL France. Dans un instant, en cybersécurité, on plonge encore au cœur de la vie des entreprises.
BFM Business, midi, l'heure H, l'invité, Audrey Maubert.
L'invité de l'heure H, Jérôme Biwa, associé cybersécurité chez Weston, avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on est vraiment au cœur des bouleversements dans l'entreprise. Si le télétravail a bousculé, on le disait, le marché des bureaux, il a aussi mis au centre des préoccupations la cybersécurité de l'entreprise. Comment le Covid a ouvert les vannes et fragilisé les entreprises? Mais là, on parle des grands groupes, mais jusqu'aux PME. Est-ce que ça a été l'occasion de doper les solutions mises en place dans les entreprises?
Oui, il y a eu un vrai changement de paradigme. On avait l'habitude d'être dans l'entreprise, donc protégé aussi par les murs physiques, quelque part dans l'entreprise, pour accéder à ces ressources numériques. Et là, tout a éclaté, tout a volé en éclats. Tout le monde s'est retrouvé à l'extérieur et il a fallu beaucoup plus largement ouvrir les réseaux. Et donc, ça a augmenté finalement l'exposition des entreprises sur l'extérieur, et on a vu des cyberattaques spécifiques qui ont visé ces systèmes d'accès distant et qui ont touché de nombreuses entreprises pendant la période.
Il y a eu une exposition donc logiquement plus importante au risque, et toutes ces attaques, elles se sont multipliées ces dernières semaines, ces derniers mois.
Alors on est sur une tendance qui de toute façon depuis plusieurs années était forcément à la croissance. Là, ce qui s'est passé, c'est que toutes les attaques ont profité quelque part de l'appât Covid. Vous savez, tous ces mails qu'on a reçus, vous voulez des masques, vous voulez du gel, attention, il faut cliquer ici pour le télétravail, etc. Tout ça, ça a été une occasion pour les cybercriminels de percer plus facilement les défenses des entreprises, et malheureusement avec succès.
Mais ça veut dire que les défenses, elles n'étaient pas suffisantes. Même alors qu'on parle au cœur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, parce que ça s'envisageait, même si on n'a pas eu tout de suite eh bien, le réflexe d'envisager que le télétravail allait être le recours pour tous. Mais c'est que ces protections, elles étaient insuffisantes.
Oui, on est face à peu près une dizaine d'années de sous-investissement en cybersécurité. On le voit très clairement, aujourd'hui, le niveau de solidité des systèmes d'information des entreprises est trop faible. C'est facile pour les cybercriminels de rentrer. Et en plus, pour les cybercriminels, quelque part, il y a une forme d'impunité, parce que sur le volet juridique, sur le volet des enquêtes, eh bien, les cybercriminels savent très bien se cacher, et les coopérations internationales sont parfois complexes. Donc aujourd'hui, c'est clair que la balance penche plutôt du côté des cybercriminels, avec une rentabilité pour eux de réalisation des attaques qui malheureusement est très élevée.
On a trop tardé à investir, on a des années de retard d'investissement, mais à la fois du côté des entreprises et à la fois du côté des États.
Les entreprises, les États et aussi les fabricants de systèmes numériques, les éditeurs
également
de logiciels, de matériel, qui maintenant se sont réveillés, entre guillemets, mais qui pendant des années ont un petit peu, si vous voulez, quand vous achetiez un logiciel, c'est comme si vous achetiez une voiture auquel on avait oublié de mettre les ceintures de sécurité et les freins marchaient une fois sur deux. Bon, c'est pas très grave. Voilà. On est un peu toujours dans cette situation-là. Et donc, il faut pour les entreprises aujourd'hui créer des plans d'investissement qui soient très ciblés, parce que la somme des risques à couvrir est énorme. Donc il faut déjà se poser la question, par qui je peux être attaqué? Quels moyens ils vont avoir pour m'attaquer? Qu'est-ce qu'ils vont viser? Qu'est-ce qui est intéressant dans mon entreprise? Et sécuriser brique par brique, petit à petit, pour rattraper ce retard.
Et est-ce que la France a pris la mesure de ce retard? Comment elle se positionnait peut-être vis-à-vis d'autres pays qui avaient pris la mesure du risque et des réponses à donner? Comment elle se positionne? Est-ce qu'il y a eu une vraie prise de conscience, peut-être aidée par cette crise?
Oui, la France a réagi et est quand même un des pays en pointe aujourd'hui au niveau étatique sur la posture. On a une agence nationale de cybersécurité qui est très reconnue à l'étranger. Moi, je peux parler avec des homologues dans différents pays étrangers. La France représente quelque chose dans ce domaine-là et c'est bien. Après, on se retrouve sur notre tissu économique qui, lui, est très varié, très diversifié, avec des très grandes entreprises, en particulier dans le monde de la finance, qui ont investi. Qu'on investit parfois plusieurs centaines de millions d'euros pour se remettre à niveau. Et de l'autre côté, on va avoir les groupes dans l'industrie, on va avoir le service, où on va avoir aussi toutes nos PME et nos PMI, qui pourtant forment une part importante du tissu économique, qui aujourd'hui n'ont pas encore assez investi, voire ont du mal à savoir comment investir, parce qu'il y a une myriade de solutions et il faut des compétences. Et c'est pas simple, toujours la cybersécurité. Et on a un déficit aujourd'hui sur ces compétences.
Un déficit de compétences, et justement, est-ce que en France, cette révolution peut se faire via ce fameux cybercampus, hein? C'est le projet qui est véritablement sur la table à horizon 2021. Le but, c'est quoi? C'est rassembler tout l'écosystème et attirer les talents suffisants, justement, pour booster l'ensemble du tissu?
L'objectif, voilà, c'est de créer un lieu, totem, un catalyseur de toute l'expertise qu'on a en France, parce qu'on en a. Aujourd'hui, elle est très répartie dans des groupes privés, au niveau de l'État, dans la recherche. Donc avoir un forum, un lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer, partager, parce qu'on a besoin de partager. Souvent, quand une entreprise est attaquée, ben, une autre va l'être juste après. Donc il faut pouvoir partager très opérationnellement, au quotidien. Et puis, il faut être attirant. Je vous parlais des compétences. Les écoles d'ingénieurs, les universités se sont mobilisées. Le problème aujourd'hui, c'est que ces promotions qui pourraient sortir sont pleines à 50-75%, alors que c'est des métiers d'avenir qui rémunèrent bien, sur lesquels on est sûr qu'il y a du travail pendant plusieurs années, mais il y a un manque d'attirance de ce domaine de la cybersécurité, et c'est très dommage. Et donc le cybercampus pourra aussi représenter quelque chose, et pour les familles qui doivent choisir des orientations, et bien penser à la cybersécurité.
Le bon fléchage vers les formations pour obtenir les compétences, il y a aussi derrière et via ce cybercampus un enjeu de souveraineté nationale.
On est dans un monde finalement qui aujourd'hui dans le numérique n'a pas de frontières, mais on a des choses à protéger en tant qu'État. Et on le sait, hein, alors il y a des attaquants qui attaquent pour le jeu, comme ce qui s'est passé sur Twitter. Il y en a d'autres qui attaquent pour l'argent, comme toutes les attaques de demande de rançon qu'on a vues. Et puis il y a les attaques étatiques. Et aujourd'hui, tous les pays développés ont des forces qui sont capables de percer des défenses très avancées. Donc la France, en tant qu'État souverain, on doit aussi avoir ces mêmes forces d'attaque, mais aussi être en mesure de nous défendre par rapport à des attaques potentiellement venant des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de tous les pays. Donc il y a ce besoin finalement de monter en compétence, de monter en gamme et de décider de notre propre destin.
Besoin d'agir à l'échelle nationale, mais besoin finalement de quelque chose de plus large. On l'a vu notamment ces derniers temps à l'échelle européenne, avec cette prise de conscience. L'Union européenne a pour la première fois sanctionné des entités russes, chinoises, nord-coréennes. C'est une première sur ce type de dossier, mais Thierry Breton défend une étape supplémentaire. Il faut aller beaucoup plus loin dans la cyberdissuasion, dirons-nous.
Tout à fait. Là, on arrive déjà un peu tard par rapport à ce qu'avaient pu faire les États-Unis. Là, il y a de la dénonciation, quelque part, pour faire une première étape de dissuasion. On voit des sanctions financières sur un certain nombre de personnes, d'entités. Oui, c'est bien, c'est une première étape. Par contre, vu les enjeux, clairement, ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut, c'est aussi être capable de construire une Europe de la cyberdéfense, quelque part, et d'allier nos forces, parce que, eh bien, on est unis par l'Europe, et c'est qu'en alliant les forces de tous les pays européens qu'on arrivera à construire quelque chose qui soit suffisamment solide, quand on voit les moyens que sont capables de déployer, justement, la Chine, les États-Unis, la Russie. Donc, on se doit de travailler ensemble.
Et on l'aura vu aussi pour protéger, on l'a vu sur ces mois écoulés, protéger des données, notamment des données de santé, qui paraissent capitales, qui peuvent être monétisées. Là aussi, il y a un enjeu, il a fallu prendre conscience. On a vu que des données avaient été piratées du côté de Doctolib. Leur protection, il est temps de prendre à bras le corps, notamment sur les établissements de santé. À leur échelle aussi, c'est important.
Clairement, sur toute la chaîne des acteurs de la santé. Il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a ces données de santé qui sont sous-estimées par leur gravité en cas de vol. Tout le monde pense à « je me suis fait pirater ma carte bancaire ». C'est ça qui, à titre individuel, personnel, fait quelquefois le plus peur. Mais vous faites pirater votre carte bancaire, vous appelez la banque,
deux jours après, vous faites opposition,
vous êtes remboursé, vous avez une nouvelle carte. Vous faites pirater votre dossier médical qui annonce que vous avez eu telle ou telle maladie grave, ou même que vous avez vu tel ou tel médecin X fois, eh bien ça, c'est irréversible. Jamais vous pourrez revenir en arrière. Et donc finalement, les données de santé, c'est peut-être ce qu'on a de plus sensible dans la protection de notre vie personnelle.
Merci Jérôme Miwa. Je rappelle que vous êtes associé cybersécurité chez Wavestone. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous dans l'Orage, bien sûr. On se retrouve dans un instant, la suite de l'Orage.